Amis de Radio Silence, bonjour. Honneur aux femmes, ai-je dit dans le dernier Flash du Monde. Honneur à Madame Bettencourt qui nous quitte. À cet âge-là, on ne pleure vraiment plus, on célèbre celui qui s'en va. Nous, en Afrique, dès que quelqu'un a vécu 80 ans, on ne pleure plus, on fait la fête. Et donc moi, quand papa est décédé l'an dernier, il avait 82 ans, on n'a pas pleuré. On avait le cœur lourd, bien sûr. Et on a surtout beaucoup dansé, on a célébré. Et bien sûr, on s'est beaucoup engueulé. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je voulais dire vraiment, c'est que Madame Bettencourt, c'est la lignée des gens comme Mademoiselle Chanel. La vraie France, la France digne, la France noble, la France grande. Mais quand on lit aujourd'hui la nécrologie, enfin le début, hein, j'ai vu un article sur un site qui s'appelle JJS News. Et cet article s'intitule « De la cagoule à la kippa », comme pour dire que... les Bettencourt étaient supposés être des résistants portant la cagoule, mais en fait, ça n'était pas, c'était des faux. Et que finalement, bah, il se peut que la richesse passe entre les mains de ceux qui portent la kippa. Mariage oblige de la fille Bettencourt et des petits-enfants qui s'en suivent. On n'est pas maître de son destin, malheureusement. Et on a toute une forme de, comment je vais dire, une trajectoire qui lie comme ça Bettencourt à Michael Jackson. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, hein, parce qu'on va analyser un peu cet article-là vite fait, dans ses grandes lignes, hein, dans les questions qu'il soulève, celle de Michael Jackson figure en filigrane, ces mariages mixtes qui se font aujourd'hui dans une société prédatrice qui a dévirilisé les hommes et qui font que beaucoup d'hommes vivent au crochet des femmes. C'était pas vraiment ça avant, mais que voulez-vous, on évolue comme cela dans une société néo-nazie qui ne dit pas son nom, avec ses Goebbels en médias qui sont là pour diffuser la propagande à outrance et tous les autres qui font du divertissement. Voilà, la société de l'entertainment. L'entertainment en lui-même, c'est bien, ça a toujours existé, vous savez, autant de ces grandes foires grecques, empoignades et tout romaines. C'était bien, mais ça peut pas, ça servait pas vraiment. C'était pas la même finalité que celle aujourd'hui qui consiste à détourner l'attention des gens vers du futile et finalement aller, je vais pas dire, redire déviriliser, mais on essaye comme ça de les vider de toute substance intellectuelle et culturelle et ça donne des êtres vides. Des êtres qui n'ont pas d'envergure, des êtres qui n'ont pas de vision, des êtres qui sont totalement hors contact de la, je vais pas dire de la vraie vie, mais de ce qu'est vraiment le monde. Michael Jackson, vous connaissez bien l'histoire, hein, il est un peu fini comme cela, il a cette grande richesse qui va probablement parler, on va appeler les petits-enfants via ses enfants qui ont été tous faits, je veux dire, on a inséminé des femmes à sa place, on lui a frogué des enfants comme une nouvelle religion et ils vont hériter de quelque chose qu'ils ne méritent pas. C'est terrible parce que si aujourd'hui un mec peut venir comme ça et s'approprier la richesse des autres, c'est un peu gênant. Alors, il y a eu conflit entre la mère et la fille, parce que justement, il y a une grosse divergence là, à ce niveau, sur la façon de concevoir le monde. Et ça a donné cet article. Bon, on va regarder dans les grandes lignes deux ou trois choses. La première question, c'est celle qui qualifie les Bettencourt de collabos ou d'amis de collabos. C'est la même chose, puisque elle-même, fille de Schuller, épouse Bettencourt, qui est l'amie de Schuller. Et c'est des collabos, d'après l'auteur de l'article. Et d'après lui, il aurait fallu que, justement, en tant que collabos, ces gens-là soient jugés par, on va pas dire, la justice, parce que ça veut plus tellement, ça veut plus dire grand-chose, au moins par l'histoire, et qu'ils soient défaits. Probablement même dépossédés de leur richesse, parce qu'il faut lire entre les lignes. Et ça pose une question de fond, qui est une question philosophique. Et on voit très bien aux États-Unis que la question se pose aussi avec ces statues qu'on déboulonne comme cela, sous prétexte que c'est des gens qui ont participé à tel ou tel épisode raciste qui n'était pas bien. C'est des gens qui ont pas, qui ont participé, je veux dire, qui ont collaborer avec le Ku Klux Klan, c'est des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça. Cette façon de voir les choses, de réécrire l'histoire en essayant de supprimer tout ce qui était héroïque, parce que quelque part, il ne faut pas non plus croire, hein, nous ne sommes pas des êtres parfaits, chaque personne a ses zones d'ombre. Ce qui compte, qui devrait compter, c'est pas comme aujourd'hui où on prime ceux qui ont fait les lois sur l'avortement ou ceux qui ont fait les lois sur le mariage gay. Vous voyez un peu ces trucs civiques. Je sais même plus qui ira au Panthéon demain. Parce que qu'est-ce qu'on a fourgué aux gens ces dernières années de fondamental? La construction du Louvre, je ne sais pas, même Mitra n'est pas au Panthéon. Ces gens-là, ces statues qu'on déboulonne, comme les Bettencourt, c'est quand même des gens qui ont fait des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Pensez donc si on crée L'Oréal, un groupe comme L'Oréal en 1907 et qui est number one aujourd'hui en matière de cosmétique, c'est pas rien, c'est que on peut toujours dire ce qu'on veut, c'est des gens qui ont travaillé, c'est des gens qui ont tenu la gageure. Bien sûr, il y a toujours des requins autour, mais on ne peut pas comparer entre celui qui a quand même fait des choses posé des actes et ceux qui n'ont presque rien fait, mais en faisant beaucoup de bruit comme cela. Et ce sont les mêmes groupuscules, je vais dire, qui vont attribuer les notes pour dire oui, mais Madame Bettencourt, c'était pas ça, c'était des collabos. Oui, mais L'Oréal, c'est quoi? C'est un grand groupe français qui a des résultats, qui embauche, qui fait des choses. Donc, il faut que nous changions aussi notre façon de voir les choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et on n'a pas des grands hommes qui soient 100% blancs. Il y a toujours des petites choses, mais c'est pas ça qu'on regarde. On regarde au caractère, à la nature, je veux dire au caractère exceptionnel de ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Ensuite, il y a le mot même collabo. Ça veut dire quoi, collabo, aujourd'hui? Franchement, si on regarde la société comme elle fonctionne aujourd'hui, tous les citoyens du monde sont devenus des collabos. Il y a quelque peu, comment je veux dire, il y a très peu de gens qui résistent à cette déferlante abrutissante, esclavagiste, avilissante, pieuse, je veux dire, qui résiste à cela? Vous avez les gens, moi, quand je discute avec les gens, ah non, mais tu sais, eux là, ils sont très puissants, nous, on peut rien faire, faut qu'on reste bien à carreau. Moi, tout ce que je veux, c'est essayer de faire ce que je veux. Oui, essayer de faire ce que tu veux. Il y a une étude qui vient de montrer que les banques ne prêtent pas aux pauvres, en gros, c'est-à-dire, elles ne prêtent pas aux gens, c'est le faciès, quoi, les crédits bancaires. Surtout si tu veux acheter un logement, laisse tomber. Ça ne les intéresse pas. Tu n'es pas là pour acheter un logement. Tu es là pour faire préparateur de commandes ici à Saint-Quentin-Fallavier. Et puis ta gueule, excusez-moi du terme. Ces choses-là, après, des gens comme ça qui assistent à ça, qui n'ont jamais rien dit, parce qu'il a fallu qu'on parle de ça ces jours-ci pour dire que ben, la France, elle fait jamais d'audit. Elle ne. Je veux dire. Si les gens travaillent même en France, c'est une chance. Ils ne sont pas contrôlés, ils n'ont pas d'obligation de résultat, ils n'ont pas de sanctions. Les banques font ce qu'elles veulent, les banques, elles sont toutes du même bord. Donc, elles vont prêter à leurs frères et à ce qu'on appelle les riches, mais c'est facile de s'organiser en clan, de s'accaparer comme ça tout un secteur qui est quand même fondamentale pour l'économie et pour la cohésion sociale, et que l'État soit là, un spectateur à regarder. L'État est un spectateur pour presque tout. La question n'est pas qui est collabo, qui l'est pas. Tout le monde est devenu collabo d'une façon ou d'une autre. La question, c'est qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour sortir le peuple des raies de la technologie, des raies de la banque, de la finance. Comment on fait cela? Il n'y a personne qui s'avance en disant peut-être qu'on va nationaliser ou peut-être qu'on va créer des choses qui soient véritablement publiques et laisser face à face, pas face à face, côte à côte, le public et le service privé dans une, pourquoi pas, une forme de concurrence, une forme d'émulation. La concurrence, c'est pas mauvais. On a tué toutes ces choses-là, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus de concurrence, il n'y a que des monopoles partout, il n'y a que la pensée unique partout. Des gens comme L'Oréal étaient quand même là, ils ont fait une différence. Je veux dire, moi, je suis une femme L'Oréal, hein, pardon, 100%, j'utilise les produits. Et pour les utiliser, je peux vous dire, c'est du top, c'est du top. Ils ont cette approche comme ça qui fait du maquillage un art, comment on va dire ça, c'est de la peinture. C'est la peinture, c'est un tableau que vous faites quand vous vous maquillez. C'est l'idée que L'Oréal essaie de véhiculer. Et ça, c'est bien parce que derrière, ça a permis à beaucoup d'autres sociétés d'essayer de suivre. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des lignes de maquillage. Vous le connaissez toutes, même les stars en fin de carrière. Pourquoi pas, on fait ce qu'on peut, hein. Je voulais terminer, si je peux, par la politique étrangère. Ce qui s'est passé là aux Nations Unies récemment, le président Trump est contre. il veut bombarder, enfin, il menace la Corée du Nord, il menace l'Iran, il menace le Venezuela. Alors, je suis tombé là aussi sur un site, un commentateur formidable qui a dit, mais le président Trump, il nous a promis des choses pendant la campagne. Notamment, il a dit qu'il mettrait Hillary Clinton en prison. Et ça, c'est un autre. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui apparaît aussi dans l'article qui a été fait là sur Bettencourt, c'est-à-dire que c'est des gens qui auraient mérité la prison, mais ils n'ont pas fait de prison. Vous voyez un peu, selon que, voilà, vous êtes né à gauche, à droite, vous êtes riche ou pauvre, la justice sera. Mais quand il dit ça, c'est pas la question des Bettencourt, qui encore sont des gens du privé. C'est encore plus fondamentalement la question des hommes politiques qui volent, qui détournent et auxquels on ne fait jamais rien. La liste est longue, que ce soit en France ou aux États-Unis. Monsieur Trump nous avait promis qu'il y aurait une enquête forte sur l'email gate. Il nous a promis que l'Amérique n'irait plus faire la guerre un peu partout comme elle le fait là. L'interventionnisme américain, c'était fini. C'est pour ça qu'on a parlé d'America First, les intérêts de l'Amérique d'abord. La Constitution américaine dit que si elle n'est pas menacée par qui que ce soit, si elle n'est pas attaquée, elle n'a pas à aller en guerre. Or, c'est pas ce qu'elle fait. Maintenant, elle y va carrément, elle y va carrément, elle prend tout ce qu'elle veut avec la force. Le Venezuela, ce commentateur a dit vite fait. Le Venezuela, c'est pas une petite affaire. Et pourquoi le Venezuela est visé le Venezuela? C'est pas l'Arabie Saoudite qui a la plus grande réserve de pétrole au monde. C'est le Venezuela. Et comme c'est le Venezuela, effectivement, ça devient intéressant. C'est comme l'Irak, on allait pour qu'on allait pour lui, pour l'huile, on dit l'oil en anglais, pour le pétrole. Et plus encore, le Venezuela est en train de se séparer, je crois, d'une monnaie là qui était liée au dollar. Et ça fait que c'est des choses qui ne plaisent pas du tout à l'Amérique. L'Amérique perd comme ça des parts de marché, selon elle. Et du coup, on a ce qui se passe là au Venezuela. On ne dit jamais ces choses-là. Mais c'est vrai que l'Amérique, c'est dommage parce qu'elle pourrait obtenir ce qu'elle veut en faisant autrement. Ensuite, l'Iran. Alors, elle a attaqué l'Iran, ce commentateur a dit, mais alors quelle affaire? L'Iran, on a déjà essayé une guerre, hein? C'était la guerre Irak-Iran, parce que derrière l'Irak, le pauvre, était instrumentalisé pour aller détruire l'Iran. Malheureusement, ça a duré 10 ans, cette histoire-là, et malgré tout le soutien logistique américain de poids de l'OTAN derrière l'Irak, mais l'Irak n'a pas gagné la guerre. C'était déjà un mauvais signe. Et en insistant pour aller encore, pour essayer de recommencer cela, mais alors cette fois-ci de façon frontale, ça ne marchera pas parce que la Russie a beaucoup investi en Iran et tous ces investissements font que la Russie a laissé passer toutes les provocations jusqu'à présent. L'Iran, c'est un peu son dernier bastion. La Syrie, encore, elle peut laisser passer, mais l'Iran, jamais encore que la Syrie, elle ne laissera pas. Parce que quand on commence à donner la Syrie, jusqu'où on s'arrête, on donne l'Iran, mais après, on est bouffé soi-même. Aller en Iran, ça voudra dire automatiquement affrontement Russie-États-Unis et guerre totale. Et le troisième point, c'est la Corée du Nord. Bon, je vous passe, ils se sont, voilà, Rocketman, je ne sais plus quoi. Le président Trump aussi, des fois, je ne sais pas à qui lui dit de dire des choses, mais enfin, c'est. Parfois, il dit des choses, ce n'est pas la peine. Là, dans cette situation-là, le président coréen avait dit, nord-coréen, que Kadhafi, quand il a fait, on lui a demandé d'arrêter son programme nucléaire, comme on demande à l'Iran, en échange de la paix. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'il a arrêté, on allait le saisir, on l'a tué comme un pauvre mec, il n'avait plus tout ce qu'il avait comme arme de dissuasion. On lui a demandé, laisse tomber, il a fait confiance, on l'a même intégré dans la commission des droits de l'homme, vous savez, des Nations Unies. Mais c'était, comme on dit, j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. Kadhafi s'est fait avoir en beauté et Pyongyang a juré que jamais ça leur arrivera. L'arme nucléaire, ils l'auront jusqu'au bout de gré ou de force, que l'Amérique le veuille ou pas, le monde entier le veuille ou pas, et s'ils veulent qu'ils viennent détruire la Corée du Nord. De toute façon, c'est la seule façon de tenir. Là, c'est un jeu de poker. Alors, Trump s'est dit, moi j'ai la force. On a même augmenté le budget de la défense sans que le ministre de la Défense ait demandé. Parce qu'on va faire des armes, et ça c'est le complexe militaire industriel qui fourgue ses armes partout, les engins de la mort. Parce qu'en prévision de 3 guerres, en prévision peut-être l'invasion du Venezuela, on ne sait pas, en prévision, enfin, au Venezuela, on n'ira pas envahir, mais on va, vous savez, on va utiliser des pantins qu'on va équiper en prévision de la guerre, peut-être en Iran et en Corée du Nord. Mais ça ne va pas se passer comme ça en Corée du Nord. La Chine ne va pas rester là à regarder ce qui va se passer en Corée du Nord. Le Japon non plus. La Corée du Sud non plus, parce que surtout la Corée du Sud, elle risque d'être, je vais dire, de faire partie des dommages collatéraux. Alors, quand on va ramener l'arme nucléaire, commencer à bombarder? Non! Ça ne marchera pas non plus, parce que la Chine, qui a l'infanterie la plus grande du monde, ne peut pas laisser ces choses-là se faire en Corée du Nord, parce qu'on sait très bien qu'avec la nouvelle mentalité néo-nazie qui gouverne le monde, ils arrivent en vous présentant comme ça un drapeau blanc, mais en fait derrière c'est un drapeau rouge, le drapeau de la mort, mais ça personne n'est plus dupe. Du coup, le bras de fer que M. Trump engage avec Pyongyang, il est perdu d'avance, ça sert à rien, parce que Pyongyang ne baissera pas la garde, ça jamais, et en plus de toute façon, c'est quel plaisir d'humilier l'Amérique. Donc ils se sont mis en état d'être humiliés, et là ils sont piégés, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire fort en gueule, fort en gueule, fort en gueule. Donc à côté de ça, quand vous avez quand même des gens comme L'Oréal, qui ont créé des choses, qui ont maintenu comme ça une certaine... comment je dis, un volume d'affaires depuis 1907 jusqu'à maintenant, alors vous dites bravo, bravo, bravo. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur oscillait, tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs. Amen.